Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Au fil des pages s'intéresse aux livres de Bertrand Barré et de Pierre-René Bocquis, L'énergie nucléaire, Comprendre l'avenir, paru aux éditions Irlé en 2007, qui a reçu la mention du prix Robert Val Grand Public, un ouvrage richement illustré où il n'est pas question de prendre parti sur le débat de l'énergie nucléaire en tant que telle, mais d'expliquer ce qu'est l'énergie nucléaire, de revenir sur son histoire, sa découverte et ses applications actuelles et futures. Pour en parler avec nous, Bertrand Barré, l'un des auteurs de ce livre est avec nous. Bertrand Barré, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Academy. Vous êtes ingénieur, professeur émérite à l'INSTN, Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires. Vous êtes accompagné de Roger Balian, membre de l'Académie des Sciences. Roger Balian, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Academy. Vous êtes physicien théoricien à Saclay, conseiller scientifique au CEA. Je précise que vous avez été également professeur à l'IX et que vous avez enseigné des cours sur l'énergie, ce qui nous vaut le plaisir d'être avec nous ici à Canal Academy en compagnie de Bertrand Barré. Bertrand Barré, j'ajoute que vous n'êtes pas accompagné de votre collègue, mais peut-être aurez-vous l'occasion de nous donner quelques mots sur sa fonction avec vous pour ce livre.
Oui, Pierre-René Bocquis est un pétrolier. Il est actuellement professeur à la retraite également, professeur total associé, et il a été conseiller scientifique à l'Institut français du pétrole également. Et c'est un peu l'originalité de ce binôme, d'avoir mis quelqu'un du nucléaire et quelqu'un du pétrole dans le même ouvrage.
Alors j'ajoute, avant de commencer cette émission, Roger Balian, que vous étiez membre du jury du prix Robert Val.
Oui, oui.
Donc vous avez fait partie de l'équipe qui a décidé de donner des mentions ou des prix à certains ouvrages. Donc une mention à ce livre « L'énergie nucléaire » de Bertrand Barré et de Pierre-René Bocquis. Roger Balian, qu'est-ce qui a décidé le jury à donner une mention à ce livre ?
Il n'est pas d'usage de parler des délibérations du jury, mais dans ce cas particulier, je peux le faire parce que nous étions tous unanimes et nous pensions tous à peu près la même chose. L'une des raisons, d'abord, était déjà ce qui vient d'être dit, le fait que cet ouvrage a, avec cette particularité remarquable d'avoir comme auteur un ingénieur nucléaire et un pétrolier, est un livre d'une objectivité totale. Et ça, ça nous a beaucoup plu, ce caractère très ouvert sur tous les problèmes énergétiques, en particulier ceux, bien sûr, du nucléaire. Mais ce n'était pas un livre fait par un spécialiste uniquement. C'est un, bien sûr, toute la partie spécialiste est absolument parfaite, est irréprochable, mais il y avait cette vision qu'on sent à travers le livre d'un bout à l'autre de quelqu'un d'un peu extérieur au domaine et qui parle des questions énergétiques en général. Donc ça, c'était l'une des choses qui nous a beaucoup plu. Bon, l'autre point est que nous sommes actuellement à une époque où nous assistons dans le monde entier à une relance du nucléaire qui est absolument indispensable parce que les gens, après 20-30 ans, ont fini par prendre conscience de l'importance des problèmes climatiques et de l'importance des rejets de CO2. Et ceci entraîne, peut-être moins en France, c'est moins visible parce que nous sommes déjà très nucléarisés, mais dans le monde entier, il y a un intérêt pour le nucléaire qui est très fort. Donc ce livre arrive à point nommé. Et ce livre répond à un besoin parce que nous ne voyons aucun livre ressemblant à ça, à destination du grand public, qui arrive à expliquer les choses de façon simple, mais malgré tout profonde et sérieuse. Je crois que ça n'existe pas. Bon, alors ça, c'était l'une des raisons. Les hésitations, peut-être, j'en parlerai aussi du jury. Il y en avait une première, c'était que Bocquis avait déjà eu un prix, une mention au prix Robert Val pour un livre qu'il avait sorti auparavant sur le pétrole.
Donc votre collègue,
Oui. Alors, on rechigne toujours un petit peu à donner les prix aux mêmes. Mais bon, là, il se trouvait que le sujet était si différent que ça justifiait cela. Sinon, nous avons très peu discuté sur ce livre, car nous l'avons beaucoup aimé. La seule discussion qui, je pense, est intéressante à mentionner, c'est que ce livre comporte non seulement l'essentiel sur l'énergie nucléaire proprement dite, mais comporte aussi toute une série de chapitres sur d'autres aspects du nucléaire. Et en particulier, dès le début, il y a des chapitres sur la bombe. Et ça, ça choquait un certain nombre de membres du jury qui disaient bah, « c'est hors sujet, c'est un peu gênant ». Or, nous avons eu une discussion à ce sujet et les gens ont soulevé l'idée que la bombe était le péché originel du nucléaire et probablement la raison pour laquelle il y a autant de réticence dans le grand public à développer le nucléaire, parce que dans leur tête, c'est quelque chose qui n'est pas une technologie civile, c'est une technologie militaire. Et c'est frappant de voir que même la Suède a construit des centrales nucléaires parce qu'elle voulait construire une bombe au départ.
Et
c'est peu connu.
Et nous aurons l'occasion d'en reparler au cours de cette émission. Bertrand Barré, vous avez construit effectivement votre livre avec donc Pierre-René Bocquis, bien sûr avec plusieurs chapitres. Un grand chapitre consacré à qu'est-ce que l'énergie nucléaire. Alors bien sûr, nous n'allons pas en parler ici, nous allons parler des chapitres suivants. Donc une grande partie consacrée à l'histoire de l'énergie nucléaire, de ses applications, notamment la bombe, comme vous le disiez à l'instant, Roger Ballion. Alors peut-être pourrions-nous nous arrêter sur quelques points historiques.
Tout commence avec Becquerel et les Curie, avec la découverte de la radioactivité. Mais en ce qui concerne l'énergie nucléaire, peut-être que le vrai point de départ, c'est Chadwick, c'est le neutron en 1932. Parce que à partir de l'instant où on a découvert cette particule qui pouvait interroger le cœur de la matière sans être gêné ni par les électrons, ni par les protons du noyau, on a eu un outil d'exploration fantastique. Et c'est en faisant ces recherches fondamentales d'exploration de la matière qu'un beau jour, Enrico Fermi s'est rendu compte que quand on envoyait des neutrons sur un noyau d'uranium, eh bien, il ne se passait pas la même chose que sur les noyaux plus légers qu'il avait essayés les uns après les autres. Il a envoyé une espèce de SOS à tout le monde. À l'époque, il n'y avait pas Internet, mais les équipes scientifiques finalement correspondaient très bien, parce que dans les mois qui ont suivi, toutes les équipes de physiciens d'Europe ont commencé à essayer d'envoyer des neutrons pour l'uranium et d'essayer d'interpréter ce qui se passait. Et ceux qui ont trouvé la bonne interprétation, ce sont les Allemands, donc Otto Hahn, Strassmann et avec l'aide de Lise Meitner, qui ont découvert que, au lieu d'avoir une radioactivité artificielle normale, eh bien, le noyau d'uranium se coupait en deux morceaux. Et ils ont inventé le mot Spaltung, qu'on traduit nous par fission. Et c'est pareil, ils ont averti tout le monde, ben voilà, nous on pense que c'est de la fission. Deux mois plus tard, l'équipe française de Joliot-Curie, Kovarsky, Alban, a refait les expériences, a confirmé effectivement la fission et a découvert que, au moment où le noyau d'uranium se casse en deux morceaux, il y a des nouveaux neutrons qui sont émis. Donc ils ont imaginé à peu près tout de suite les applications possibles, parce que s'il y a des nouveaux neutrons émis, ils peuvent à leur tour aller faire des fissions, c'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne, et qui peut soit être explosive, c'est vrai, soit au contraire être bien contrôlée et donner une source très concentrée d'énergie. À ce moment-là, on était à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, qui a complètement démantelé toutes les équipes. En gros, on peut dire que la plupart des physiciens européens sont partis, qui en Angleterre, qui au Canada, la majorité aux États-Unis. Et après Pearl Harbor, le président Roosevelt a lancé cet effort hallucinant qui a été le projet Manhattan pour maîtriser la fission. Alors malheureusement, c'est ce que disait Roger Ballion tout à l'heure, malheureusement, effectivement, à cette époque, le but n'était pas d'utiliser l'énergie nucléaire, le but était de faire des armes très puissantes. D'où le terme un peu péché originel. C'est vrai, c'est pas de chance. On aurait découvert la fission dans une période moins troublée. Eh bien, on l'aurait faite pour son application la plus naturelle, la plus normale, qui est de faire de l'énergie. Et aujourd'hui, on ajouterait de faire de l'énergie sans émettre des gaz à effet de serre.
Et restons quelques minutes de plus sur ce sujet-là. Donc, dans votre livre, vous expliquez, déjà vous faites remarquer effectivement la frappante coïncidence entre les connaissances de l'évolution de la physique nucléaire et puis l'évolution, la montée du régime nazi. Et effectivement, heureusement, en quelque sorte, que ces physiciens allemands, autrichiens, hongrois sont partis de l'Allemagne nazie. Sinon, que serait-il advenu du régime nazi avec la bombe nucléaire entre ses mains?
Alors, on ne sait jamais réécrire l'histoire. Sous l'Allemagne nazie, les recherches ont continué, mais elles ont continué dans des conditions assez étonnantes. En fait, ils étaient beaucoup moins avancés que ne l'imaginaient les émigrés et les Américains en général. On peut même se demander s'ils avaient autant d'enthousiasme pour développer ça, compte tenu du régime dans lequel ils étaient.
Heisenberg s'est défendu en disant qu'il aurait pu travailler plus fortement, mais oui, qu'il n'a travaillé que très mollement.
Qu'il n'était pas très motivé, c'est possible. On a là un point qu'effectivement, on aurait, on fait jamais l'histoire en deux fois pour comparer.
La fission.
À partir de l'instant où le projet Manhattan s'est mis en route, c'était un projet d'une ampleur considérable. À peu près un an, Enrico Fermi, donc, lui encore, et son équipe qui travaillait à Chicago, ont construit le premier réacteur, je dirais tout de suite le premier réacteur de main d'homme. 30 ans plus tard, on a découvert que la nature avait déjà fait ça, mais c'était il y a 2 milliards d'années et on avait oublié entre-temps. Donc le premier réacteur d'Enrico Fermi, c'est l'acte de naissance, si vous voulez, de l'énergie nucléaire. Mais l'énergie nucléaire pour faire de l'énergie, des réacteurs vraiment faits pour faire de l'électricité branchés sur le réseau électrique, c'est encore 10 ans plus tard. Le premier, c'est le réacteur russe d'Obninsk, petit réacteur vu d'aujourd'hui, mais qui à l'époque était déjà assez important. Et de l'autre côté du rideau de fer, c'est les centrales de Calderol, qui ont été donc inaugurées en 1956 par la reine Elisabeth II, qui voyait une belle longévité. Et à partir de là, si je peux dire, l'histoire s'est accélérée et le nucléaire a connu une première expansion assez remarquable. Puis une période de croissance beaucoup plus ralentie. Et en ce moment, on assiste vraiment aux prémices d'une deuxième accélération qui semble assez universelle.
Je me souviens au début des années 50, je suis allé faire le voyage spécialement à Genève, où il y avait une exposition grand public, en même temps que la première grande conférence internationale sur le nucléaire. Et l'une des choses qui m'avait le plus frappé était une petite maquette de la première centrale qui produisait de l'électricité, qui était russe, enfin, qui était soviétique plus exactement, qui était vraiment le fleuron de la partie soviétique de l'exposition.
De cette énergie nucléaire qui, au départ, a servi à faire des bombes, bien sûr, maintenant, nous en servons pour faire des réacteurs nucléaires. En préparant cette émission, vous vouliez insister sur les réacteurs de deuxième, troisième, voire quatrième génération.
Oui. En fait, si vous voulez, je reviens un peu. La première période de croissance était à la fois extraordinairement créative et assez désordonnée. C'est-à-dire qu'on a essayé à peu près toutes les combinaisons possibles des composants d'un réacteur nucléaire, en les construisant très vite, en passant très vite d'une taille à l'autre. Et puis, tous ces réacteurs prototypes successifs de l'époque pionnière, on peut dire qu'aujourd'hui, ils sont tous arrêtés et on les appelle la génération 1. Puis, il y a eu une espèce de tri, une espèce de sélection naturelle, et seulement une poignée de réacteurs sont devenus ce qu'on a appelé des filières, c'est-à-dire une série dans une grande continuité technologique avec des débuts de standardisation. Ce sont les réacteurs qui, aujourd'hui, sont encore en fonctionnement, font 16% de l'électricité mondiale. C'est la génération 2. Et on est en train de construire ce qu'on appelle la génération 3. Alors, quelle est la différence? La génération 3, c'est les mêmes que les modernes de la génération 2, avec une contrainte en plus, une contrainte qui vient directement de l'accident de Tchernobyl, qui est, même si on a l'accident le plus grave possible, même si la totalité du cœur du réacteur venait à fondre, tout doit rester à l'intérieur de l'enceinte. On n'a pas le droit de faire un dégagement massif de radioactivité dans l'environnement. Ça, c'est une contrainte supplémentaire qui est indépendante, si vous voulez, de la grandeur du risque de cet accident. C'est, quel que soit ce risque qu'on continue évidemment à chercher à minimiser de plus en plus, eh bien quand même, le risque zéro n'existant pas, on doit démontrer que dans ces nouveaux réacteurs de troisième génération, cet accident majeur qui détruirait la centrale ne contaminerait pas l'environnement, ne provoquerait pas d'évacuation de population, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Mais vous voyez, ce sont encore des réacteurs qui sont, par ailleurs, la même technologie que la génération 2. Tandis que la génération 4, sur laquelle on commence à faire le travail de recherche et développement, donc elle est décalée dans le temps, eh bien, on essaie de la développer pour être le nucléaire durable. C'est-à-dire, en particulier, le nucléaire qui ne soit plus limité par les ressources minérales, le nucléaire qui gère mieux ses déchets radioactifs de longue durée de vie, c'est les deux points les plus importants. Et on pense qu'il faudrait pouvoir avoir ce type de réacteur à l'échelle commerciale en 2040. C'est-à-dire qu'il n'est que temps de commencer à faire les développements qui permettraient, parce qu'on ne fait pas un réacteur commercial d'un coup. Il faut passer par une étape de moyenne taille qu'on appelle démonstrateur, puis ensuite une étape de taille normale, mais qui n'est pas du tout encore commercial, c'est le prototype, et seulement après, on peut espérer faire des séries.
Et actuellement en France, alors, nous avons 59 réacteurs. Combien sont de deuxième, troisième génération ?
Alors, en France, on a 58 réacteurs typiques de deuxième génération, réacteurs à eau pressurisée, et qui font donc 78% de notre électricité.
Les REP.
Les REP. On a aussi, mais hélas plus pour très longtemps, un réacteur qui était un peu la préfiguration de ce qu'on cherche à redévelopper pour la quatrième génération, le réacteur Phoenix, de petite taille, et qui maintenant n'a qu'un rôle expérimental. Et on est en train de construire, donc on a là la coexistence un peu de tout, on est en train de construire le premier réacteur de troisième génération sur le site de Flamanville, à côté de deux réacteurs qui sont des réacteurs de deuxième génération qui sont actuellement en marche. Donc vous voyez, on a l'éventail.
Roger Ballion.
Il faut dire qu'on a déjà eu un réacteur presque de quatrième génération qui était Super Phoenix et malheureusement,
qui a été arrêté.
Pour des raisons politiques, il a été arrêté de façon stupide car la France a perdu l'avance considérable qu'elle avait dans ce domaine et on est obligé actuellement de revenir sur tous ces actes.
Mais c'était essentiellement un problème financier, non ?
Non.
Non.
Non, c'était un problème purement politique, clairement politique, si vous voulez. En 96, au moment de la constitution de ce qui allait être une nouvelle majorité, les Verts, qui étaient constituants de cette future majorité plurielle, ont mis comme condition non négociable à leur participation au gouvernement l'arrêt de Super Phoenix. Et un an plus tard, quand le nouvel gouvernement s'est formé, eh bien, ils ont appliqué leur plateforme. On peut difficilement leur reprocher, mais c'est vrai que c'est très, très, très regrettable.
Dans votre livre, vous parlez bien sûr de l'énergie nucléaire selon les pays, selon différents pays. Comment se situe la France par rapport au reste du monde ? Sommes-nous leader mondial dans le domaine de l'énergie nucléaire, puisque nous avons beaucoup de réacteurs ? Nous sommes en deuxième position, juste après les États-Unis et juste avant le Japon.
En termes de production d'électricité, on est en deuxième position, ce qui effectivement est bien pour un pays quand même de taille moyenne. En termes de proportion de notre électricité qui vient du nucléaire, on est en première position. Et je dirais que, en ce qui concerne la maîtrise technologique de tout l'ensemble des étapes qui constituent en fait l'industrie nucléaire, depuis la mine d'uranium, l'enrichissement du combustible, la fabrication du combustible, la conception et la construction des réacteurs, et ensuite le traitement des combustibles usés, la France est probablement le seul pays à avoir la maîtrise complète de l'ensemble. Il y a des pays qui sont très bons sur certaines étapes, aussi bons que nous. Notre particularité, c'est un peu la cohérence sur l'ensemble de ces étapes.
Roger Ballion, au début du livre de Bertrand Barré, il développe toutes les questions d'énergie, et je vous pose la question puisque vous avez donné des cours sur la question de l'énergie. On peut s'interroger puisque donc en 2005, dans le monde, on estime que 40% d'énergie vient du pétrole, 22% vient du gaz, 23% du charbon, 8% d'énergie renouvelable et enfin 7% de nucléaire. Ce qui est assez original, c'est qu'on pourrait penser que les énergies renouvelables arriveraient tout en fin de liste et finalement c'est l'énergie nucléaire
qui arrive derrière. Bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, il faut une technologie très poussée, beaucoup plus poussée que pour les renouvelables qui sont majoritaires actuellement, c'est-à-dire l'hydraulique. Ce qu'on appelle renouvelable et qui est dans ces 8%, c'est l'hydraulique. Bon, alors le nucléaire lui-même suppose des développements technologiques très avancés et les pays ne se sont pas lancés là-dedans, tout bêtement, parce qu'ils n'avaient pas la capacité, ou peut-être tout bêtement parce que l'accès aux matières premières, telles le pétrole, le gaz et le charbon, était trop facile. Alors on commence par ça, et puis une fois qu'on se rend compte qu'on est en train d'épuiser ces matériaux et qu'on est en train de cochonner complètement notre atmosphère, alors à ce moment-là, on se retourne vers le nucléaire, et c'est là que nous en sommes actuellement.
Justement, vous parlez de ressources énergétiques, l'uranium. Où allons-nous le chercher, puisque nous n'avons plus ici de mine d'uranium ?
En France, on a fermé la dernière mine d'uranium en 2001. On a encore de l'uranium, qui pour l'instant n'est pas exploité, mais plus beaucoup. En revanche, l'uranium est bien réparti sur la planète. Les grands pays, les grandes réserves d'uranium sont en Australie, au Kazakhstan, au Canada, au Niger, en Namibie, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Donc, vous voyez, elles sont non seulement bien réparties, mais elles sont aussi répartis dans des pays qui ont des profils politiques assez différents. Donc on n'a pas, en matière d'uranium, l'espèce de monstruosité géologique qui caractérise le pétrole, où presque tout se trouve dans une toute petite région du monde, le Moyen-Orient, et le gaz où c'est réparti entre deux régions du monde, le Moyen-Orient encore, et l'ancienne Union soviétique. Cette première chose, l'uranium, on va le chercher là où il y en a, et il y en a un peu partout. Et la façon dont, en France, on se garantit en termes d'approvisionnement, c'est que la compagnie Areva, qui est donc le champion français du nucléaire, est elle-même opératrice minière d'uranium dans presque tous ces pays.
Donc, pour le coup, l'utilisation de l'uranium en France ne pose pas de problème. On a déjà nos mines.
Oui, mais l'utilisation dans le monde en poserait si, justement, on n'avait pas ce chiffre si faible de part de l'électricité nucléaire. Car si tous les pays étaient équipés comme la France, les réserves d'uranium seraient aussi rapidement épuisées que les réserves de pétrole, même plus rapidement.
Donc finalement, ça pose
donc,
la question.
Donc ça pose la question, mais la réponse, on la voit, la réponse, elle est à la recherche sur les réacteurs de quatrième génération. Parce que les réacteurs de quatrième génération multiplient par 100 au moins les possibilités de l'uranium.
Donc l'intérêt n'est pas de faire le tout nucléaire.
Le tout nucléaire, c'est impossible. On ne peut pas imaginer des voitures nucléaires. On peut imaginer une grande partie de l'électricité nucléaire avec la quatrième génération. Mais tant qu'on ne sait pas stocker l'électricité pour faire marcher nos transports, on ne voit pas du tout comment se sortir de ce dilemme du CO2.
Pour terminer sur les 5 minutes qui nous restent pour cette émission, il y a bien sûr d'autres applications, et je crois que c'était d'ailleurs une originalité de votre livre, c'est parler des autres applications de l'énergie nucléaire.
Oui, parce que, évidemment, en énergie nucléaire, on pense réacteur, quelquefois on pense bombe, malheureusement, mais c'est beaucoup plus diffus et répandu que cela. Presque toutes les industries du monde, une bonne partie de l'agriculture, de la médecine, dépendent de techniques qui sont directement dérivés du nucléaire ou qui font appel à des produits que l'industrie nucléaire peut fournir, qu'on appelle les radioéléments, qui servent de traceurs pour l'hydrologie, l'agriculture, qui servent dans la médecine pour aider à pas mal de diagnostics ou à faire de la radiothérapie, qui servent dans l'industrie pour vérifier des soudures, pour... En fait, on dit même que l'ensemble du chiffre d'affaires qui dépend des techniques nucléaires est 3 fois plus grand que le chiffre d'affaires de la production d'électricité nucléaire proprement dite, juste pour donner un ordre de grandeur.
Et justement, donc vous parliez du domaine de l'alimentation. Donc vous donnez quelques exemples dans ce livre que je me permets de citer, notamment le contrôle des insectes dans les graines et les fruits, également retarder la germination des tubercules ou également retarder le pourrissement des fruits et des légumes, ce qui d'ailleurs peut expliquer pourquoi nos tomates peuvent rester aussi longtemps dans notre frigo sans bouger.
Toutes les épices pratiquement du monde sont ionisées. On dit ionisées parce que ça irradie, ça fait peur. Mais c'est la même chose entre nous. Ils sont ionisées pour en permettre la conservation. Au Japon, la plupart des pommes de terre, justement, sont ionisées pour éviter la germination et permettre la conservation. L'aspect des insectisations est très important et il a des applications agricoles évidentes. Et le nombre, le pourcentage de nourriture possible qui est détruite en fait par les insectes ou les champignons est fantastique. C'est presque 2/3 finalement de la nourriture potentielle mondiale qui est de fait détruite. Donc ça, c'est très important. Mais les mêmes techniques permettent aussi dans le milieu de la santé des choses fantastiques comme l'éradication de la mouche tsetse par exemple, de régions entières qui se fait par le système du relâchement de mâles stériles. Donc on irradie des insectes mâles. Ce qu'il faut pour les rendre stériles, mais en les laisser en bonne santé et entre guillemets sexuellement actifs. Et de cette façon, on a pu nettoyer des régions entières de cette maladie qui est désagréable.
Une autre application un peu moins connue, et je pense qu'on terminera sur cette application-là, la dépollution des fumées en irradiant avec des faisceaux d'électrons un mélange d'eau et de fumée de centrales à charbon. Donc c'est dépolluer les fumées de centrales à charbon.
Oui, c'est en fait transformer donc ces oxydes de soufre et d'azote qui sont toujours produits lors de la combustion du charbon et qu'en général, on a des espèces d'usines chimiques derrière pour nettoyer les fumées quand on est dans des pays suffisamment développés. Eh bien, avec ce système d'irradiation, on provoque la formation directe de sels comme des nitrates qui, en plus, sont utilisables comme engrais. Donc c'est une méthode qui est à la fois économe en énergie, parce que nettoyer les fumées, ça demande de l'énergie autrement, et qui en plus a un sous-produit intéressant. Donc j'ai pensé que c'était un petit clin d'œil.
Oui, parce que ça pose la question effectivement des gaz à effet de serre et de la pollution, qui est un autre élément.
Il ne faudrait pas que ça encourage la production de charbon, de centrales électriques
non,
au charbon.
Mais le problème, c'est que le retour du charbon, il est là. Peut-être que je sors un peu du sujet, mais c'est quand même important de savoir qu'en 2000, la Chine a produit 1 milliard de tonnes de charbon. En 2005, 2 milliards. En 2006, 2 milliards 400 millions. Heureusement qu'il y a le nucléaire pour essayer de freiner un peu ce développement considérable et qui, lui, est vraiment problématique.
Je vous remercie Bertrand Barré de nous avoir accordé cette émission ici à Canal Academy. Je vais redonner le titre de votre ouvrage que vous avez coécrit avec Pierre-René Bocquis, L'énergie nucléaire, comprendre l'avenir, un ouvrage de vulgarisation scientifique, si on ne l'a pas dit, je le redis une nouvelle fois, publié aux éditions Irlé en 2007, une petite maison d'édition de Strasbourg, c'est ça ?
Je voudrais ajouter que non seulement le texte est passionnant, mais que le livre est très beau, très bien illustré. Et c'est un livre qui devrait être dans toutes les bibliothèques, je pense.
Eh bien, merci. Roger Balian, je reprécise que vous étiez membre du jury du prix Roberval qui a donné une mention à ce livre, prix Roberval auquel Canal Academy est associé. Merci Roger Balian, merci Bertrand Barré,
merci.
Et peut-être à une prochaine fois pour un prochain ouvrage primé par le prix Roberval. Merci
à
beaucoup.
Quel travail, oui.
Merci, au revoir.
Merci.